écoutez Radio Éthique, Radio E-T-H-I-C et réagissez. Et réagissez.
Bonsoir, merci d'être avec nous sur Radio Éthique 96.7 en FM sur Monaco. Pour une heure d'émission sur la transition énergétique de la principauté, nous sommes en direct. Y a-t-il un vieux monde derrière nous et un nouveau qui se profile dans le domaine de l'énergie? Doit-on dès à présent se passer des énergies fossiles pour adopter les énergies renouvelables? Le peut-on? Et à quelles conditions? Et que fait la principauté de Monaco en matière de choix énergétique? Et quels sont ses financements? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. En direct du Stars and Bars sur le quai Antoine 1er, en compagnie de nos invités, Annabelle Jäger-Sédoux, la directrice de mission pour la transition énergétique de la Principauté de Monaco. Bonsoir. Roland Bonsoir. De Rechniewski, le directeur de la compagnie des autobus de Monaco. Bonsoir. Nicolas Buteau, qui gère Mobi. Vous savez, les petites voitures électriques que l'on peut emprunter, genre Autolib, hein, c'est bien ça. Céline Varegno, l'ambassadrice du tri, notamment le tri sélectif à la SMA, la Société Monégasque d'Assainissement. Marjorie Crovetto-Haroche, pour la mairie. Ce sera sur le thème du gaspillage alimentaire et la mise en place du photovoltaïque sur le toit des crèches. Enfin, Kate Powers, chez qui nous sommes ce soir, pour la politique très engagée du Stars and Bars en faveur de l'environnement et la lutte contre le plastique jetable. Et vous verrez, ils sont très mobilisés. On verra avec eux ce que peuvent faire les particuliers pour contribuer à réduire le gaz à effet de serre. Monaco, donc, s'affirme en pointe dans la réalisation de la transition énergétique. Alors, quel est le plan de la principauté, ses projets? Où en est-on en ce qui concerne les réalisations concrètes et à quel prix? Que reste-t-il à faire et dans quelle direction? C'est ce qu'on va voir avec Annabelle Jäger-Sédoux, la directrice de mission pour la transition énergétique de la principauté de Monaco. Vous venez d'être nommée à ce poste-là. Moi, je dirais que, une personne aujourd'hui est chargée de coordonner les actions. C'est déjà un point très positif.
En effet, ça montre la détermination du gouvernement Trincier de s'engager avec ambition et détermination dans la transition énergétique et en effet de dédier une mission qui puisse être visible de tous puisqu'elle a notamment comme objectif d'accompagner l'ensemble des acteurs de la communauté monégasque dans la transition énergétique. Donc cette mission, plus, on en reparlera après si j'ai bien compris, un fonds vert dédié, c'est en effet pour le gouvernement princier de façon d'afficher les moyens qu'elle met en place pour cette transition.
Monaco sans produire de gaz à effet de serre, ça paraît quand même extrêmement lointain, mais pas si lointain que ça, c'est à quelle échéance?
Eh bien c'est l'objectif ambitieux qu'on s'est fixé pour 2050, la neutralité carbone. Pour y arriver, une étape transitoire, celle de moins 50% d'émissions de nos gaz à effet de serre en 2030. Et en effet, c'est cet objectif que nous nous donnons collectivement, que d'autres pays se sont donnés. Mais c'est vrai que depuis la COP21, nous faisons partie quand même des pays qui sont un peu moteurs et les plus ambitieux en la matière. Donc maintenant que nous avons les objectifs, il faut les tenir.
Vous disiez un programme très ambitieux. C'est vrai, c'est un programme très ambitieux, mais est-ce qu'il est réaliste?
Il me semble qu'il est tout à fait réaliste à une condition, c'est que l'action publique soit forte et le reste pour tenir ses objectifs, donc on la détaillera certainement après, et que cette action publique, elle soit accompagnée de celle des acteurs, de la communauté. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut que l'ensemble des résidents, des particuliers, des professionnels se mettent aussi en mouvement. Il faut que nous allions 4 fois plus vite ensemble. Et encore une fois, pardon de leur dire ensemble. C'est la seule et unique condition pour y arriver.
L'année dernière, Monaco a publié un livre blanc sur la transition énergétique. Il propose 3 axes prioritaires. C'est la mobilité, le traitement des déchets et l'efficacité énergétique des bâtiments. On a l'impression que, on va revenir sur ces trois grands axes, évidemment, ça sera la colonne vertébrale de cette émission. On a l'impression quand même que le développement des énergies renouvelables est passé un petit peu au ralenti.
Alors non, en fait...
C'est une fausse impression.
C'est une vraiment fausse impression et je vais essayer peut-être de la rectifier. Les 3 secteurs que vous nommez sont en effet nos 3 secteurs principaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc sur ces 3 secteurs, il faut que nous ayons une action forte pour les réduire. On détaillera comment ensuite. Donc ça, c'est agir sur les consommations. Mais l'autre volet de notre ambition, c'est d'agir aussi sur la production d'énergie. Et donc là, on en revient à la production d'énergie renouvelable. On a en principauté un capital fort qui se décompose principalement de notre capital solaire. Mmh. Et comment vraiment utiliser au mieux cette énergie. On a fait le calcul avec le cadastre solaire que nous avons mis en place en principauté, qui permet d'évaluer ce potentiel d'efficacité de l'énergie solaire. On pourrait arriver jusqu'à 10% de notre consommation énergétique.
Et à ce moment-là,
si on couvrait, on n'y est pas encore complètement. On est à quelques pourcents pour le moment. C'est une dynamique qu'on essaie d'amplifier avec le cadastre qui permet d'évaluer ce potentiel, avec les subventions qui vont avec. Avec l'offre privée de la SMEG qui est tout à fait bien coordonnée pour pouvoir faire une proposition clé en main aux acteurs qui veulent équiper leur toit. Donc voilà, le solaire, c'est vraiment un potentiel très important. Mais l'autre, que nous ne devons pas oublier, parce que ça fait des années que Monaco est en pointe sur cette énergie, et peut-être elle ne le dit pas assez, même si voilà, beaucoup viennent nous voir pour ça, c'est les boucles thalassothermiques, l'énergie de la mer, donc les pompe à chaleur, en effet, connectée sur l'énergie de la mer. C'est comme ça que tout le quartier de Fontvieille est alimenté en énergie. C'est comme ça que demain le sera le quartier de la Condamine et après-demain le quartier du Lervoto. C'est aussi comme ça que sera alimentée en énergie l'extension en mer.
Voilà. Ça y reviendra parce que c'est important.
Tout à fait. Donc la production d'énergie renouvelable, c'est une vraie politique que nous avons et à laquelle nous dédions beaucoup de moyens.
Mais alors, il y en a d'autres. L'éolien a été abandonné.
L'éolien, je pense pas qu'il soit c'est ce premier capital naturel à utiliser compte tenu d'une énergie qui n'est pas stable, mm-hmm. Contrairement aux deux autres qui le sont bien davantage.
Quelles sont les autres pistes que vous explorez en ce qui concerne?
Alors on explore un petit peu tout, on explore la géothermie, on explore l'hydrogène, on explore, et ça c'est vraiment plus qu'explorer, puisque maintenant l'usine de traitement des eaux va la mettre en œuvre dès 2019. C'est l'utilisation des calories des eaux usées. On a en principauté un réseau d'une cinquantaine de kilomètres de nos eaux usées. On peut là aussi utiliser, connecter les pompes à chaleur sur ces calories et utiliser les calories des eaux usées. Donc vous voyez, tous les potentiels sont sous la table. On fait des études, on les teste, on les expérimente, et bien plus que cela quand encore une fois il s'agit du solaire ou des énergies de la mer.
Monaco reste d'autre part favorable à l'énergie nucléaire.
Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on dépend complètement de l'énergie française et qu'effectivement, le principal de notre consommation énergétique, c'est l'énergie que nous achetons en France. Que cette énergie, en effet, en France, elle reste majoritairement produite de façon nucléaire. Mais là aussi, on a une ambition très forte et on vient de réaliser des premiers investissements tout à fait significatifs en la matière. On souhaite décarboner l'énergie importée. Donc, l'État a créé avec la SMEG une société, une joint venture, pour pouvoir acheter, développer des parcs d'énergie renouvelable en France pour décarboner notre énergie. On a cette ambition de finalement d'avoir 100% de notre énergie importée qui provient d'énergie renouvelable. On vient de faire des acquisitions de parcs photovoltaïques qui vont couvrir presque 10% de cette énergie importée.
Alors, le livre blanc, c'est disons un petit peu la loi cadre de la transition énergétique. Est-ce qu'il y a une obligation de résultat qui découle de ce livre blanc ?
L'obligation de résultat, c'est celle de tenir nos objectifs que nous avons non seulement affichés, mais communiqués aux Nations Unies depuis la COP21. Donc oui, on a vraiment une obligation de suivi et d'évaluation de tout ce que nous mettons en œuvre. On doit faire un bilan chaque année. Non seulement vis-à-vis des Nations Unies, mais nous ici en interne, avec tous les engagés dont on pourra parler après
du
pacte national, donc ceux qui nous rejoignent dans cette dynamique, donc un bilan annuel pour savoir où nous en sommes.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous demandez aux entreprises et aux particuliers de participer à cette transition énergétique avec ce pacte national qui a été lancé dans la foulée du livre blanc. Ça s'est lancé au début de l'année, donc c'est tout nouveau. Qu'est-ce que c'est ce pacte national ?
Eh bien, ce pacte national, c'est ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est vraiment l'idée qui est de dire nous n'y arriverons qu'ensemble.
Vous préférez fédérer plutôt qu'obliger, si je comprends bien.
On préfère tout à fait fédérer, inciter plutôt que obliger. C'est cette idée du pacte qui est une démarche de progrès que nous proposons à tous, donc particuliers ou professionnels. C'est une démarche volontaire, mais dans laquelle on propose aux uns et aux autres de s'engager sur des actions concrètes, de les évaluer. On propose à chacun, et c'est obligatoire pour les entreprises, de faire un bilan carbone. Donc, bilan carbone qui est disponible sur le site de la mission Transition énergétique. C'est vraiment important d'avoir cette démarche de calcul qui est très pédagogique. On a tendance un petit peu à oublier l'impact que l'on peut avoir individuellement et collectivement à travers notre mobilité, à travers les déchets que nous ne trions ou nous ne trions pas, à travers nos bâtiments, la façon dont nous nous chauffons. Donc sur tous ces points-là, nous proposons des actions très concrètes, certaines obligatoires, notamment pour les entreprises. Et encore une fois, eh bien, un an plus tard, on reviendra vers chacun en demandant de refaire ce bilan carbone pour voir si les résultats sont au rendez-vous et en proposant de nouvelles actions à mettre en œuvre pour ceux qui se sont engagés.
Alors, est-ce que ce pacte national a déjà du succès ? J'ai des chiffres, je ne sais pas s'ils sont tout à fait exacts. C'est 67 entreprises qui ont signé ou associations et 508 particuliers. Ça vous paraît exact et ça vous paraît beaucoup ?
Ça me paraît tout à fait exact. Ça me paraît un résultat tout à fait intéressant pour la première année et compte tenu de la petite équipe de la mission Transition énergétique, puisque nous sommes 5. Et j'ai vraiment, je vous remercie de cette invitation ce soir parce qu'on est complètement au cœur de l'idée non seulement de la transition énergétique en principauté, mais du pacte national, c'est-à-dire en fait comment fédérer les efforts des uns et des autres. Et on en parlera avec chacun de ceux qui sont autour de la table plus tard, mais j'ai Marjorie en face de moi et la mairie de Monaco. Oui. Ils se sont engagés dans le pacte national, comme l'ont fait d'autres institutions, comme l'ont fait d'autres entreprises. C'est vraiment voilà, cette façon de faire ensemble. On est au Stars and Bars où Kate, elle en parlera tout à l'heure, nous aide à relayer auprès des résidents, des particuliers, ces messages, cette pédagogie et cette invitation à signer le pacte.
Voilà. Alors, les principaux freins, c'est quoi ?
Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont culturels. Nous ne le cachons pas. Et là, moi, je compte aussi beaucoup sur la communauté peut-être internationale que nous avons ici en Principauté, avec peut-être des cultures qui sont un peu moins réticentes que, par exemple, la culture française. C'est vrai que si on prend le tri des déchets ou le covoiturage, par exemple, hein, et ben, c'est des choses sur lesquelles on a un peu du mal à s'y mettre parce qu'il y en a quelques freins culturels un peu lourds. Donc là, l'idée pour 2019, c'est vraiment d'essayer de communiquer davantage au sens de faire de la pédagogie, montrer tous ces acteurs qui s'engagent pour montrer qu'il y a une histoire, que cette transition énergétique, elle est en route, elle est en marche, que beaucoup s'engagent avec des actions très concrètes pour donner envie à beaucoup plus de nous rejoindre.
Alors tout ceci a un coût. Est-ce que Monaco peut l'assumer ? Et de quelle provenance viennent les fonds publics ou privés ou,
Eh bien, comme je vous le disais en introduction,
il y a une ligne budgétaire.
Il y a une sacrée ligne budgétaire, qui c'est le fonds vert. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Ça montre la volonté politique du gouvernement de dédier. Elle est de plusieurs dizaines, enfin, on est même à plus de 20 millions d'euros pour l'année qui vient. Donc c'est vraiment un fonds qui est dédié à accompagner toutes les actions de réduction de gaz à effet de serre, avec d'ailleurs un reporting carbone, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser vraiment ce que permet chacune de ces actions de réduire. Voilà, donc ça c'est en effet un fonds dédié qui peut appuyer l'ensemble des actions publiques et privées en principauté.
Alors, on a vu que l'un des axes principaux de l'effort sont les transports. Roland de Rechnitsky, bonsoir. Vous êtes le directeur d'exploitation de la compagnie des autobus de Monaco. Quelle est l'importance de votre flotte ?
Alors, nous disposons pour le service public urbain de 42 véhicules, dont aujourd'hui 22 sont hybrides.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ?
Alors, Pas tout à fait 24 heures sur 24, parce que il y a assez peu de monde qui se déplace, je dirais, en bus, qui se déplacerait en bus aux heures très tardives ou très tôt le matin.
Mais vous avez des bus de nuit, quand même.
Oui, il y a des bus de nuit, mais pas toute la semaine. Enfin, du moins, on sort pas tous les soirs, je dirais. Non, disons que le principal de l'activité commence vers 6h30 le matin, jusque vers 22h, et ensuite il y a un relais du bus de nuit jusque vers 1h, et un allongement le vendredi soir et le samedi soir, jusque vers 3h du matin, suivant les périodes de l'année.
Pour quel nombre de passagers transportés par an ?
Environ 7,5 millions de voyages, ce qui est un chiffre, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est à comparer avec Paris hors métro. Mmh. Pour vous donner une idée, Paris hors métro, c'est 140 voyages par habitant et par an. À Monaco, on est plus près des 200. Donc le transport public a toujours été d'abord un axe du gouvernement princier et un choix des résidents et nationaux pour se déplacer en ville. Nous représentons un hypercentre, hein, faut bien le comprendre. Alors aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'une part les moyens à mettre en œuvre pour participer à cette transition énergétique. Et ensuite, travailler en partenariat avec le gouvernement pour trouver toute solution utile qui permettrait aux autobus de circuler mieux ou aux moyens de transport de circuler mieux.
Alors l'intérêt des bus de Monaco, c'est leur carburant. En quoi est-il moins polluant que d'autres ?
Alors depuis 1998, on utilise un carburant, un biocarburant. Vous avez dû voir sur les pare-brises le mot diester. En fait, c'est un diester de colza et de tournesol. Hein. C'est de l'huile de colza et de tournesol qui a été mélangée avec de l'alcool et qui, chauffé à une certaine température, ressemble étrangement à du gasoil. Il est ensuite mélangé avec du gasoil à hauteur de 30%, ce qui fait que les réductions fossiles, en tenant compte des cultures, de la récolte et des traitements, on arrive à une réduction de 23%. Alors, si on prend cette réduction-là associée aux nouveaux véhicules hybrides, on est heureux de pouvoir dire qu'on a déjà un embryon de solution pour 2030, puisque nos nouveaux autobus équipés de cette façon sont déjà conformes à l'objectif de 2030.
Quand on s'est rencontré la dernière fois, vous m'aviez parlé de chaînes de traction hybride. C'était un concept un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous le développer ?
Alors oui, tout à fait. En fait, un autobus hybride, c'est un autobus électrique qui a moins de batterie qu'un bus électrique et qui va se servir d'une génératrice diesel, hein, en l'occurrence alimentée avec ce fameux biocarburant, pour recharger ses batteries. Alors les batteries sont à la fois rechargées en descente, ou lorsque le bus va ralentir pour arriver à l'arrêt, et en même temps, s'il manque de l'énergie, bien la génératrice va se mettre en marche. Alors pour donner une idée, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'avec les nouveaux bus hybrides actuels, on a économisé l'équivalent de 4 semi-remorques par année de carburant, ce qui est loin d'être négligeable. Voilà, donc la solution hybride, c'est une solution intermédiaire avant ce que vous allez me demander, j'imagine.
Elle est actuelle aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. On a 22 bus hybrides qui roulent et qui sont équipés donc de moteurs électriques, de petites batteries et de génératrices qui apportent le complément d'électricité.
Je ne vous pose pas encore tout à fait la question que vous avez en tête. Ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez envisagé d'autres types de combustibles, genre GPL ou pile à combustible.
Alors, il y a une question d'ordre pratique. Monaco, on a un problème de place, tout le monde le sait, et donc notre dépôt, j'imagine que peu de gens le savent, mais est souterrain. Ce qui veut dire que ça exclut toute énergie par gaz, puisque le gaz monte en hauteur et devient explosif, donc c'est pas possible de stocker ni hydrogène, ni gaz naturel ou GPL. Donc on a dû écarter. Alors par contre, on avait fait des essais avec d'autres carburants, puisqu'on a essayé l'alcool, hein, à l'époque où d'ailleurs cet alcool n'était même pas encore autorisé en France. En 2007, pour les Jeux des Petits États, on avait fait rouler des autobus avec de l'alcool E95, qui n'existe pas, enfin qui commence à exister, je crois, mais qui avait cette particularité de donner une odeur très de mélasse à l'échappement, et qui est non, mais c'est très agréable.
Ah oui.
Mais il faut des autobus particuliers pour faire ça. Et puis surtout, c'est vraiment adapté pour des villes qui sont proches des cultures, quoi.
Alors il y a des couloirs de bus qui sont aménagés pour fluidifier la circulation des bus. Parfois ça bloque. Est-ce qu'on peut imaginer une extension de ces couloirs ou...
Alors le gouvernement fait le maximum et je crois que les services techniques déploient des trésors d'ingéniosité pour essayer de nous faciliter la tâche. Ce que je peux dire, c'est que le dernier couloir bus est celui du boulevard des Moulins. Alors ça peut paraître anodin pour les gens qui n'ont pas les statistiques en main, mais ce couloir bus fait gagner 3h30 de travail, de conduite, aux autobus globalement, juste dans un sens. Ce qui veut dire que ça permet de réguler le trafic et d'améliorer la qualité de service. Parce que on peut toujours ajouter des bus pour maintenir une fréquence de passage aux arrêts, mais le temps de parcours, il dépend intimement de la circulation, sauf si on a de bons couloirs de bus.
Alors j'allais y venir, effectivement, il y a aussi la circulation. Anne-Jégard-Sédou, on est quand même dans une situation de logique de grosses voitures et d'encombrement et de trafic très important à Monaco. Est-ce qu'il y a contradiction, voire antagonisme entre sphère publique et sphère privée ?
Sur la question de la mobilité ?
Oui.
Je crois que sur la mobilité, la sphère publique doit montrer l'exemple, clairement. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers la flotte publique ou les institutions et ou les entreprises. Mais voilà. Donc ça, je pense que la sphère publique doit montrer l'exemple. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la sphère publique, il faut qu'on l'accompagne. C'est pour ça qu'il y a des subventions sur les véhicules électriques, par exemple, qui s'adressent tant aux entreprises qu'aux particuliers. Et c'est une des actions du pacte national que l'on propose aux entreprises, une action majeure sur la mobilité, d'essayer de faire évoluer les flottes de véhicules vers des véhicules électriques.
Voilà. Monsieur Drachniewski, alors les bus électriques à Monaco, tout électrique, c'est envisageable, c'est prévu, à quelle échéance ?
Alors écoutez,
à Nice, c'est 2025, paraît-il.
Oui, alors j'ai cru voir sur les journaux aujourd'hui qu'ils allaient engager des nouveaux véhicules en GPL, donc vous voyez, en gaz naturel. Non, ceci étant, il est évident que aujourd'hui, nous sommes déjà électrique via les bus hybrides. Ce qui change, c'est que un bus électrique soit emporte avec lui sa quantité d'énergie pour la journée, soit il aura besoin d'être rechargé ponctuellement à certains endroits. Donc tout ça, ce sont des choses qui doivent se réfléchir pour que on trouve la solution la plus adaptée. Et dans cette optique, on va faire des essais dès le premier trimestre 2019 avec un autobus qui emportera, que l'on rechargera la nuit et qui emportera son énergie pour toute la journée. Ce sont des véhicules qui sont plus faciles à utiliser, mais qui nécessitent d'être tous chargés au même moment. Mmh. Alors, ça a l'air de rien, mais pour un autobus, pour vous donner une idée, la consommation électrique pour charger en vitesse rapide un autobus équivaut à la quantité d'énergie pour faire marcher l'ensemble de notre dépôt d'autobus aujourd'hui. Pour un autobus. Donc imaginez la quantité. Donc ça veut dire que, est-ce que l'on doit charger tous les bus en même temps? Ou est-ce qu'on doit, au contraire, étaler cette charge dans la journée? Toutes ces questions-là d'ordre technique qui sont passionnantes et qui nous enchantent pour l'avenir, eh bien, il faut qu'on prenne les bonnes décisions parce que ce sont des investissements qui sont lourds, et qu'on doit faire le bon choix dans l'intérêt général, quoi.
Nicolas Buteau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes patron de Mobi, les petites Twizy électriques mises à la disposition du public, c'est le modèle des Autolib en gros ?
Pas tout à fait. Alors d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités et nous offrir une belle visibilité. Donc, l'autopartage Mobi, en fait, est très innovant. Il faut se replacer dans le contexte. Il a été lancé sous l'impulsion de la Fondation Albert II en 2014. L'innovation réside dans ce qu'on appelle du free-floating, ou plutôt ce qu'on peut traduire par de la boucle ouverte. Si vous comparez avec Autolib, qui est le plus connu, puisqu'il était sur Paris, Autolib, c'était de la boucle fermée. Vous avez des stations, vous prenez le véhicule, une station, vous le ramenez soit à la même station, soit à une autre station. Nous, on est en free-floating, on est en boucle ouverte, vous pouvez les laisser n'importe où dans Monaco. Quand je dis n'importe où, il y a quelques règles à respecter, c'est-à-dire vous avez le droit de stationner dans les zones 2 roues, dans les zones 4 roues, même s'il y a un parc-mètre, vous ne payez pas. Et en plus, il y a un accord avec Monaco Parking pour pouvoir faire stationner les véhicules dans les parkings.
Alors aujourd'hui, quel est le nombre de véhicules mis à la disposition du public ?
En fait, il y en a 25. Il y en a 24 pour le free-floating et un accord avec un hôtel.
Et vous êtes une compagnie publique ou privée ?
On est une joint venture. En fait, on est détenu à 51% par Sodetrel, qui est une filiale d'EDF, dont le cœur de métier est la gestion d'infrastructures de recharge. Donc, c'est pas tout à fait le même métier. Et à 49% par le gouvernement monégasque.
Alors, soyons très pratiques. En moyenne, on fait combien de kilomètres après avoir pris possession de sa voiture ?
On fait entre 2 et 3 kilomètres. Et pour un trajet moyen qui dure entre 10 et 12 minutes.
C'est beaucoup ?
C'est bien.
C'est
par rapport à l'échelle de Monaco, c'est quelque chose de très, très correct. Si vous allez dans les villes plus grandes, forcément, vous aurez des trajets beaucoup plus longs.
Justement, vous dites à l'échelle de Monaco, est-ce qu'on peut aller en dehors de la principauté ?
Techniquement, rien ne vous empêche de sortir. Simplement, on a mis un verrou technique. Savoir que si vous êtes en dehors de Monaco et que vous lui coupez votre session, donc coupez votre facturation, la demande de coupure est rejetée. C'est pour vous obliger à les ramener dans Monaco. Concrètement, le concept est fait pour se déplacer à l'intérieur de Monaco. Il est dans la logique de réduction des gaz à effet de serre, puisque on est en véhicule 100% électrique. Donc l'idée, c'était vraiment de faciliter et de réduire et fluidifier le trafic à l'intérieur de la principauté.
Alors comment vous considérez cette opportunité de Mobi ? C'est un prolongement, par exemple, après avoir pris les transports en commun de les bus, ou c'est l'inverse ? On prend le bus et puis après on prend
Moi, je pense que les deux sont complémentaires. C'est vraiment un complément, il faut le voir comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les véhicules, comme c'est du free-floating, ils bougent sans arrêt dans la journée. Il est quasiment très difficile de pouvoir satisfaire le client et lui assurer, à l'endroit où il sera, à n'importe quel moment de la journée, un véhicule disponible proche de lui. En plus, la notion de proximité, on l'a appris à travers de l'expérience qu'on a vécue ces 4 années, c'est quelque chose de très propre à chaque individu. Pour moi, proche, ça peut être 50 mètres ou 200 mètres. Pour d'autres, ça va être 300, 400. Donc, c'est compliqué. D'une manière générale, je voulais insister, c'est un nouveau moyen de déplacement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fallu éduquer les clients. C'est très, très dur de faire passer un message suivant à un client, de dire, vous allez à un endroit pour aller à une réunion. Et quelques minutes après ou quelques heures après, quand vous ressortez, votre véhicule ne sera pas forcément là, il faudra en reprendre un autre. Ça, c'est tout un travail d'éducation qu'il faut faire et qui est pas simple.
Est-ce que le public plébiscite votre mode de transport ? Combien on prie cette année ?
Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut. Alors, on a deux formules. Il faut savoir qu'historiquement, on a annoncé des formules d'abonnement qui étaient des formules standards. Vous vous inscrivez, vous êtes abonné à l'année et vous payez tous les mois, que vous utilisiez peu ou pas. Vous payez. Puis à un moment donné, on s'est dit, avec ce type de produit, on n'adresse pas l'ensemble de la clientèle. Pour adresser l'ensemble de la clientèle, il faut faire du paiement à l'usage. Et donc, on a créé un produit qui est très innovant, ça, là aussi, c'est la carte prépayée, rechargeable. Et donc, là, n'importe qui, en s'inscrivant sur Internet, peut avoir accès à une carte prépayée et dans la foulée utiliser le véhicule.
Et vous avez toujours les mêmes personnes qui prennent alors, Mobi, ou vous arrivez à élargir la clientèle ?
On élargit. Grâce à la carte prépayée, notamment, on élargit. Aujourd'hui, en cumulé, on a 350 cartes prépayées qui ont été prises et on a 150 utilisateurs abonnés réguliers.
Alors, quel est l'avenir de ce genre de transport ? Vous me disiez qu'on était à la fin d'un cycle.
Oui.
On ne peut pas encore divulguer ce qui va évoluer, mais quels sont quand même vos axes de réflexion ?
Les pistes, c'est dans le raisonnement que j'ai tenu sur la complémentarité de ce mode de déplacement par rapport au bus ou par rapport au vélo, c'est de rendre ce modèle interopérable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui veut utiliser les vélos doit s'abonner au vélo, quelqu'un qui a un abonnement de bus doit s'abonner au bus, quelqu'un qui veut utiliser Mobi doit s'abonner à Mobi. Je pense que la meilleure solution, on verra ce qui se passera, c'est d'avoir un support qui permet d'accéder aux trois. Et en plus, il y a un effet mécanique qui ramène de la clientèle aux uns et aux autres.
Merci.
Merci.
Annabelle Jäger-Sédoux, il y avait un projet pour désengorger Monaco, un projet téléphérique depuis des parkings environnants sur les communes environnantes, pour amener les gens au centre. C'est toujours en cours ou c'est un serpent de mer ?
Non, ça peut paraître un peu comme un serpent de mer pour ceux qui entendent ça depuis des années. Concrètement, c'est à l'étude. Ce sont même des études qui sont bien abouties. Donc, avec un téléphérique qui partirait du jardin exotique pour descendre jusqu'au centre commercial de Fontvieille, remonter jusqu'au palais. Donc un outil vraiment très intéressant, non seulement pour les pendulaires qui pourraient s'arrêter au parking du jardin exotique, et puis pour les touristes. Voilà, maintenant les études sont en cours. Je vous cache pas qu'il y a quelques complexités qui s'additionnent compte tenu du fait qu'on va réaménager, renouveler le centre commercial de Fontvieille. Donc forcément, ça interfère. Et puis le jardin exotique, il y a une discussion en cours avec la mairie aussi pour que les projets convergent et qu'ils rencontrent aussi les intérêts de la mairie. Donc voilà, aucun projet n'est simple en principauté. Je pense que c'est vraiment un beau projet et j'espère que peut-être là aussi la dynamique du PAC, la dynamique de ceux qui utiliseront toutes ces mobilités douces permettront peut-être d'accélérer ce genre de dossier.
Merci. Vous êtes sur Radio Éthique avec nos invités sur la transition énergétique. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver dans quelques instants pour parler déchets et surtout tri sélectif.
Écoutez Radio Éthique, Radio ETHIC et réagissez. Et réagissez.
Chanteur adulé, mafieux vénéré, acteur respecté, voire même oscarisé, crooner langoureux, buveur chanceux, joueur invétéré de casino en club privé. Il faut vivre vite, car la mort bientôt. C'est ta façon de voir, ta ligne de vie, ton credo. Et de Brooklyn à Vegas, tu passes et parfois tu casses. En bleu d'excès, tu chantes My Way. L'aspect politique te paraît magique. Dino et Samy, Rat Pack, unis pour Kennedy. Et les femmes dans tout ça, Nancy, Ava. Et d'autres aventures, amour, fêlure et puis blessure. Il faut vivre vite, car la mort bientôt. Ton parcours toute ta vie se résume en ces quelques mots. Et du ghetto au palace, partout tu es à ta place. N'oublie jamais, tu restes My Way. My way. Il faut vivre vite, à la mort bientôt. Il faut vivre vite, à la mort bientôt. Ton parcours toute ta vie se
Merci d'être avec nous sur Radio Éthique 96.7 en FM sur Monaco pour une émission jusqu'à 19h sur la transition énergétique de la principauté. Alors le deuxième grand axe de la transition énergétique, c'est le traitement des déchets. Un gros effort est fait sur le tri sélectif. Et ça, c'est votre domaine, Céline Varegno. Vous êtes responsable des ambassadeurs du tri. surprenant titre, ambassadeur du tri, ça consiste en quoi ?
Tout à fait, c'est un titre assez surprenant qui a été inventé en fait par Eco-Emballage, qui a mis en place ce métier, on va dire, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, quand le tri a commencé à se répandre un peu de partout, en Europe, en France. Et donc, ils ont trouvé ce terme d'ambassadrice du tri, puisqu'on est là, en fait, pour aller expliquer aux gens les bonnes pratiques en matière de tri des déchets et les enjeux de mettre en place le tri de façon un peu plus systématique sur un territoire.
Ils écoutent, les gens ?
Et, alors, ça dépend lesquels. Mais effectivement, c'est des pratiques qui, maintenant, commencent à être quand même un peu ancrées sur les territoires, avec... étonnamment une distinction en fonction des types de déchets. On voit par exemple, en tout cas c'est le cas à Monaco, mais c'est vrai aussi en France, que le verre par exemple suscite un peu plus d'intérêt en matière de tri que les emballages ménagers recyclables, avec les difficultés qu'on a connues sur les consignes de tri qui peuvent des fois être un peu bloquantes, mais c'est des freins justement qu'on est en train de lever en ce moment.
Sur le volume général des déchets à Monaco, quel est le pourcentage de tri, de déchets triés sélectivement ?
Alors c'est un chiffre qui est un peu difficile à déterminer, pour la simple et bonne raison que en fait la comptabilité sur le volume d'ordures ménagères globales qui arrive à l'unité de valorisation énergétique n'a pas le même périmètre que les déchets qui sont collectés auprès des ménages, notamment en matière de tri. Mais globalement, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'on a 25 000 tonnes de déchets collectés par la SMA et qui arrivent... la Société Monégasque d'Assainissement, donc qui est sous concession de l'État et pilotée par la Direction de l'Aménagement Urbain. Et donc, on a à peu près 25 000 tonnes qui arrivent, qui sont collectées par la SMA et qui arrivent à l'unité de valorisation énergétique. Et on a à peu près un peu plus de 10% sur l'ensemble des volumes triés qui arrivent dans les différentes filières de recyclage. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on a des chiffres encourageants, puisque la collecte du verre a quand même augmenté d'environ 50% en 10 ans, et la collecte des emballages ménagers recyclables a doublé depuis environ 2008.
Voilà. Est-ce que vous vous occupez des communes voisines ?
Alors, pas tellement. En fait, la Société Monégasque d'Assainissement, principalement, travaille sur les territoires. Après, avec les quelques frontières qu'on connaît, ils peuvent collecter aussi quelques communes, mais ils se focalisent principalement sur la principauté de Monaco.
Alors, on va être très, très pratique.
Oui,
il y a beaucoup d'idées reçues en ce qui concerne le tri sélectif.
Je vous confirme.
Par exemple, est-ce qu'on peut mettre dans les bacs jaunes tous les emballages ?
Alors, en fait, jusqu'à maintenant, je vous dirais que non, c'était pas le cas, parce qu'effectivement, il y avait des consignes assez précises. Certains plastiques étaient pas acceptés. Mais en fait, à partir de janvier, on va passer à la simplification des consignes de tri, ce qui va permettre en fait de vraiment faciliter le geste de tri, puisque les consignes vont être étendues à quasiment le tout plastique pour les emballages ménagers recyclables, et aussi le carton, l'aluminium. Et donc, en gros, tout ce que vous récupérez quand vous allez faire les courses qui n'est pas du déchet organique et qui peut donc se recycler, pour faire simple. Voilà.
Alors, on disait aussi que, par exemple, si un petit pot en polyuréthane ou je ne sais pas quoi était mis dans le bac jaune, alors qu'il ne devait pas y être, on jetait tout et on mettait tout à l'incinérateur. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Alors, un petit pot, non, c'est pas le cas. Si, en fait, les agents de collecte voient que dans le bac jaune, il y a deux gros sacs d'ordures ménagères, effectivement, on parle de pollution du bac, et donc, il convient mieux de ne pas l'emmener au centre de recyclage, parce qu'ils vont nous le refuser. En revanche, deux petits pots ou des choses comme ça, non. Et en fait, le centre de recyclage, enfin de tri, qui se trouve à Cannes, donc qui est géré par Paprec, pratique ce qu'on appelle des caractérisations, c'est-à-dire que une fois par mois, ils regardent ce qu'il y a dans une poubelle jaune qui vient de Monaco, et ils vont essayer d'estimer ce qu'on appelle le taux de refus, et donc qui comprend justement les petits pots en question qui ne sont pas censés aller dans le bac jaune. Et donc ça, c'est la petite fierté quand même, parce qu'il faut savoir que le taux de refus monégasque est bien plus faible, voilà, que ce qu'ont nos territoires voisins dans le 06.
Alors, le problème actuel, c'est le commerce en ligne. Évidemment, les emballages et les cartons se multiplient. Il y a un moment où ça va peut-être amener des difficultés.
Et c'est en effet une difficulté, puisque ça prend beaucoup de volume. Si le carton est bien trié et qu'il va dans le bac jaune, nous, ce qu'on demande, c'est autant que faire se peut aux résidents de plier et de bien compacter les cartons quand ils le peuvent. Donc ça, c'est plus pour les résidents. Après, la SMA organise une collecte carton pour tous les commerçants, donc gratuite, qui se fait en soirée et en journée maintenant, et qui permet de collecter des volumes de carton assez impressionnants, puisque la collecte en matière de carton a vraiment augmenté ces dernières années.
Est-ce que vous envisagez de récolter les déchets organiques maintenant ?
Alors, il existe une expérimentation au parc Princesse Antoinette qui existe depuis d'ailleurs une dizaine d'années, alors qui n'est pas du tout mis en place par la SMA, mais par la mairie.
On va en parler avec vous.
donc nous, en tout cas, au niveau de la SMA, en fait, ce qu'on pourrait prôner et au niveau de la direction de l'aménagement urbain, c'est plutôt d'essayer de développer le compostage local, parce qu'en fait ce qui se passe sur d'autres territoires, c'est que certains ont essayé de mettre des compostages, enfin c'est même pas des compostages, c'est de la collecte organique collective, où il y a des camions qui viennent les récupérer et qui les emmènent sur des plateformes de compostage industriel assez loin, et il y en a peu en PACA. Donc s'il doit y avoir des développements de ce type de projet, c'est plutôt au niveau local, et il y a des projets de lombricomposteurs justement qui ont été commandés il y a peu de temps.
Voilà. Autre projet, c'est aussi le nombre de bacs de réception des objets à trier.
Oui, puisque en fait on va les limiter.
Les augmenter ? Ah non ?
Ah non. Alors on va rassembler le papier avec les D'accord. emballages ménagers recyclables. Donc ça fait partie de la simplification des consignes de tri, puisque avant donc il y avait la poubelle bleue pour les papiers et la poubelle jaune pour les emballages ménagers recyclables. Et donc là, dans le cadre de la simplification, puisque le centre de tri de Paprec peut accueillir ces déchets et peut les trier de façon automatique avec des lecteurs optiques, en fait on va pouvoir, enfin tous les usagers de la principauté vont pouvoir mélanger et le papier et les emballages ménagers recyclables pour tout ce qui est déchets ménagers. Après, il existe au centre à la SMA un ensemble, une mini déchetterie dans laquelle effectivement il y a tous les déchets ménagers spéciaux qui permettent de collecter de façon séparée les déchets qui peuvent être un peu plus dangereux.
Mais il va y avoir une initiative nouvelle en ce qui concerne les bacs à l'intérieur même des...
Ah oui, alors...
Vous augmentez.
Alors en fait, on va augmenter le nombre, mais pas le type de bac. Pardon, j'avais pas compris votre question. L'enjeu, c'est le gouvernement qui, pour inciter les résidents monégasques à mettre en place le tri au plus près de chez eux, propose la gratuité des bacs de tri. Donc pas des ordures ménagères, ce qui n'était pas le cas avant. Ils devaient louer leur bac. Et effectivement, la réglementation aussi... incite fortement les résidents à se doter de locaux en pied d'immeuble pour pouvoir faire le tri directement depuis chez eux.
Alors il y a eu dernièrement une initiative que certains ont qualifiée de gadget. Moi je ne fais pas du tout partie de cela. Je trouve que dans l'esprit c'est très très intéressant. C'était de multiplier les opérations Clink. Qu'est-ce que ça recouvre l'opération Clink ?
Alors, l'opération Clink, en fait, c'est un système qui reprend un peu l'esprit de la consigne et qui consiste à inciter les résidents à trier leurs verres et les apporter dans des points d'apport volontaires qui sont équipés de ce dispositif Clink. Je crois que le Stars & Bars est équipé d'un dispositif, pas encore, mais qui du coup va s'équiper de ce dispositif. D'accord. Et en fait, l'enjeu, c'est d'inciter vraiment les personnes à trier le verre. Et donc, à chaque fois, donc il faut télécharger une application ou se munir d'une carte qui est disponible dans plusieurs points, dont la SMA, les bureaux de poste, la mairie.
Et on gagne quelque chose.
Alors, une fois que vous mettez un contenant en verre, donc bouteille, pot, vous allez pouvoir récupérer des réductions chez des commerçants partenaires. Mmh. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, notamment auprès des enfants, puisqu'il y a une sensibilisation qui est faite de façon assez poussée par Isabelle Miguet, qui est là depuis 10 ans en tant qu'ambassadrice du tri, et qui voit qu'il y a un vrai intérêt pour les enfants, parce qu'effectivement, eux, ils voient que c'est ludique de trier, et en même temps, c'est un intérêt pour la planète.
Et vous envisagez d'étendre ce genre de concept Clink à d'autres... D'autres déchets comme les boîtes de conserve ou les choses comme ça.
La société qui est une start-up, qui produit ce système-là, réfléchit justement à développer la consigne. Après, à voir si ça sera développé sur la principauté de Monaco, parce que après il faut voir aussi que ça complexifie pas trop le geste de tri, puisqu'on aura les poubelles jaunes qui pourront réceptionner tout un ensemble de déchets ménagers, ne pas trop séparer les contenants. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en réflexion en fonction de ce que produira et ce que pourra nous proposer cette start-up.
Vous aviez un petit moyen mnémotechnique pour nous rappeler de trier les déchets?
Plus que ça, de penser global en matière de déchets. En fait, on parle souvent des 5 R. Donc l'idée, c'est pas seulement de se focaliser sur le tri des déchets, qui est un point essentiel, mais en amont de tout ça, il y a la question du refus, donc c'est le premier R, de la réduction à la source, donc essayer autant que possible de limiter la consommation de produits suremballés, le réemploi ou la réutilisation, enfin et ou la réutilisation, le recyclage, et le dernier, c'est root pour le compostage ou le retour à la terre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une approche totalement globale en matière de gestion des déchets.
Merci.
Merci à vous.
Marjorie Crovetto-Haroche, vous êtes adjointe au maire de Monaco. On va voir avec vous ce qui peut se faire tous les jours, vraiment pratiquement dans les entreprises ou dans chez les particuliers en matière d'économie d'énergie, à commencer par ce qui se fait à la mairie. Vous avez signé le pacte, c'est un engagement moral ou une obligation de résultat pour vous, pour la mairie en général?
Alors en fait, je dirais que c'est un peu les deux. Parce que forcément, c'est un engagement moral, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller en ce sens et on n'a pas le choix. Donc, effectivement, agissons tous ensemble. Et ensuite, c'est aussi une obligation de résultat, parce qu'on doit aussi montrer l'exemple. Donc, pour montrer l'exemple, il faut aussi réussir des actions concrètes. Donc, c'est un petit peu les deux.
Alors, vous dites obligation de résultat. Comment allez-vous contrôler que les gens, les employés de la mairie jouent bien le jeu, finalement?
Alors c'est sûr que notre engagement, bien sûr, se répercute en premier lieu sur le personnel municipal. Donc on a mis en place plein de petites actions. Alors effectivement, on n'a pas attendu non plus la signature du pacte pour aller dans ce sens.
Vous faisiez déjà auparavant.
On faisait beaucoup de choses auparavant. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être tout à l'heure.
Allez-y, oui, vous pouvez dire un peu ce que vous
faites. En tout cas, donc pour parler concrètement et par rapport aux trois aspects du pacte, donc c'est vrai que au niveau de la mobilité, donc cela fait longtemps qu'on a mené une politique en faveur de
l'électricité,
du déplacement propre. Donc oui. On avait commencé à changer notre parc automobile avec des véhicules le moins polluants possible. Donc on avait investi pas mal dans des véhicules hybrides. Et aujourd'hui, vraiment, on s'oriente principalement sur l'électrique. On a décidé, par exemple, aujourd'hui, de remplacer vraiment tous nos scooters thermiques par des scooters électriques. Donc là, vous allez bientôt avoir le plaisir de voir dans les rues de Monaco la police municipale qui a été donc dotée de 2 scooters électriques et également d'un véhicule utilitaire électrique, donc pour transporter les panneaux d'interdiction de stationnement. Et on a aussi commandé pour l'année 2019 d'autres scooters électriques au nombre de 4. Enfin, on a vraiment un grand effort dans ce domaine. On a aussi au niveau de la mobilité on encourage notre personnel à utiliser les transports en commun. Par exemple, les agents contractuels aussi se déplacent aujourd'hui en bus.
Alors, vous les encouragez, c'est-à-dire?
On leur donne des cartes de bus.
Ah voilà. Oui,
donc ça, c'est voilà. Donc en fait, c'est leur moyen. Aujourd'hui, c'est leur unique moyen de déplacement. Donc elles utilisent les transports en commun, le bus de Monaco.
Vous aviez fait un gros effort sur le gaspillage alimentaire. De quelle façon?
Oui, alors ça c'est donc en fait une action que l'on mène en partenariat avec MC2D, donc une association très active en Principauté. Donc on travaille vraiment avec les restaurants de Monaco. On leur fournit des doggy bags hein, qu'on a choisi d'appeler à Monaco la petite boîte parce qu'on trouvait que c'était plus joli. Donc on a 40 restaurants en Principauté qui sont partenaires de cette campagne. Donc on leur fournit des boîtes afin qu'ils puissent proposer donc à leur clientèle qui n'ont pas terminé leurs assiettes de repartir avec ce qu'ils n'ont pas consommé. Et donc aujourd'hui, on a été un peu plus loin que ce qu'on avait prévu à l'origine. On a sorti un nouveau modèle de petite boîte qui vient juste d'arriver. Donc on appelle ça la petite boîte grandie, parce que donc en travaillant avec justement les restaurateurs et en prenant à chaque fois un petit peu leur ressenti par rapport à leurs besoins, on s'était rendu compte que le format actuel était peut-être un petit peu petit, ne leur convenait peut-être pas très bien. Donc aujourd'hui, on a une petite boîte plus grande. Et on a aussi décidé de faire vraiment des sacs aussi pour les bouteilles de vin. Donc voilà.
Est-ce que ça pourrait évoluer en demandant aux restaurants, par exemple, de mettre de côté leurs déchets, leurs surplus alimentaires, pour en faire du compost? Est-ce que c'est envisageable ou pas?
Alors, tout est envisageable. Après, j'imagine qu'il y a des contraintes techniques qu'ils doivent gérer à ce niveau-là. Nous, en tout cas, par rapport au compost, et comme on l'a vu tout à l'heure, on encourage les particuliers justement à venir déposer leurs déchets au parc Sainte-Antoinette, où on a mis en place 3 points de compost. Et donc, on a la chance de voir souvent la petite école qui est à côté du parc venir amener les déchets de la cantine. Donc ça, c'est très, très agréable.
Vous avez aussi un certain nombre d'encouragements pour trier le papier à l'intérieur de la mairie.
Oui, alors ça justement, ça fait partie des nombreuses formations que l'on fait subir à notre personnel.
Parce que vous leur faites subir des...
Non, je pense qu'ils le prennent avec plaisir et qu'ils ont bien conscience de l'utilité de ces formations. Donc d'ailleurs, ils y participent avec plaisir. Donc on avait relancé justement le tri du papier en mairie, parce que justement, je pense que jamais rien n'est acquis et qu'il faut continuer justement à sensibiliser et justement jamais penser que tout roule. Donc on a reformé tout notre personnel au tri du papier. On a même mis en place une nouvelle procédure pour que ce soit le plus simple possible. Et ça fonctionne très bien. Il faut savoir que dans chaque service justement de la mairie, il y a un référent environnement et un référent énergie, donc qui est la même personne généralement, donc avec lesquels on travaille vraiment très bien.
Et vous sentez que ce personnel est motivé ou pas ? Il joue le jeu ou alors, ça ne l'intéresse pas ?
Ça l'intéresse beaucoup et ils sont très motivés. Même des fois, c'est surprenant parce qu'ils ont plein d'idées. Et donc il m'est arrivé de faire justement le tour des services de la mairie parce que je distribuais justement au personnel des gobelets pour remplacer les petits gobelets en plastique, donc des gobelets en matériel recyclable. Et justement, j'ai pris plaisir à discuter avec toutes ces personnes qui avaient plein d'idées. Je me suis rendu compte que déjà dans chaque service, il y avait des initiatives incroyables, donc beaucoup de bonne volonté. Et donc ils mènent chacun dans leur service déjà leur propre politique pour le développement durable.
Autre initiative de la mairie, c'est l'installation de panneaux solaires sur les crèches.
Oui, alors ça, on a eu vraiment la chance de pouvoir concourir à ce projet. Et d'ailleurs, c'est un bel exemple de travail en collaboration, puisque l'initiative est née donc de la mairie. Elle a été réalisée par la société monégasque d'électricité et de gaz, et bien sûr avec l'accord du gouvernement. Donc aujourd'hui, la crèche de la Roseraie, donc qui se situe à Fontvieille, a son toit qui est équipé de panneaux photovoltaïques. Donc ça représente 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et c'était aussi une première en principauté parce que c'est un aménagement qui a été fait sur un bâtiment bâti, donc déjà bâti, avec une toiture en tuiles. Donc comme quoi, c'est pas possible que sur les nouvelles constructions, c'est aussi possible sur l'existant. Et c'est un beau projet. Il faut savoir que l'énergie produite, d'ailleurs, représente la consommation électrique de 7 logements.
Donc, je présume que pour financer tous ces travaux, il y a une ligne budgétaire. Est-ce qu'elle est suffisante ?
Alors, ces grands travaux-là ne sont pas directement financés par notre budget. Donc, mais par contre, aujourd'hui, pour mener nos petites actions de sensibilisation, effectivement, on a une ligne budgétaire qui a été votée, donc qui sera dans le budget de 2019. Et voilà, ça va dans la continuité de la création de la délégation environnement qui date de 4 ans. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.
Kate Powers, on est chez vous ce soir. On est au Stars and Bars. Bonsoir.
Oui, bienvenue.
Le Stars and Bars en pointe en ce qui concerne dans son fonctionnement de tous les jours, en ce qui concerne la transition énergétique. C'est du concret. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour réduire les déchets du restaurant ?
D'abord, nous trions. Nous avons un composteur maintenant et nous faisons un compost surtout par rapport aux végétales, légumes et tout ça. Et nous venons d'avoir pour trier les cartons, on a une anse qu'on a mis devant le restaurant. On a aussi mis 4 bennes, 2 jaunes et 2 pour les verts, pour que même la communauté ou les voisins peuvent venir et trier aussi.
Vous avez été récompensé d'ailleurs pour votre action par un Energy Globe Award à propos de votre réduction des déchets plastiques. Qu'est-ce que vous aviez proposé comme projet pour pouvoir recevoir cet award ?
En fait, on avait dit qu'on allait dire stop aux pailles.
Tout simplement aux pailles.
Tout simplement. Ils nous ont demandé qu'est-ce que vous faites et on a soumis ce qu'on faisait cette dernière année, ou il y a un an et demi à peu près, je crois. Et voilà, ils nous ont récompensés. On est très fiers.
Et vous encouragez vos clients à vous suivre en faisant quoi ?
En fait, on ne met pas les pailles d'office dans les verres. Ouais. Et nos pailles maintenant sont compostables, c'est végétal. Et on sert les verres sans paille. Et si les clients demandent, on leur explique qu'on fait un geste écologique et qu'on essaie de réduire le plastique. Et ils comprennent très bien, ils sont ravis de nous suivre, surtout les enfants. Et on a fait ça exprès pour que quand les gens vont dans d'autres restaurants, ils pensent à ne pas prendre la paille.
Alors, je me suis laissé dire aussi que vous travaillez sur la provenance des produits que vous proposez à la consommation qui respectent les cycles courts et la culture écologique, c'est vrai ?
Expliquez un peu mieux.
en ce qui concerne ce que vous donnez à manger à vos clients.
Oui.
Et ça
on est locavore, c'est ça que vous voulez dire ? On est locavore, oui, on essaie de faire toute la région. On essaie d'arrêter le plus possible tout ce qui vient de loin. On a même arrêté les vins étrangers. Mm-hmm. On a essayé d'avoir les légumes de la région et le plus possible, le plus près possible. Voilà. On a même arrêté le transport de l'eau. On a réduit. On a un filtre pour l'eau dans le restaurant maintenant pour éviter le transport.
Alors je reviens à la récompense que vous avez reçue à l'Énergie Award. C'est quand même 2000 projets par an qui sont proposés. Alors tel que je vous connais, vous avez reçu un prix, mais vous n'allez pas en rester là. Quelle est votre prochaine... qu'est-ce que vous allez proposer encore à l'avenir ?
La prochaine...
à l'Énergie Global Award.
Qu'est-ce qu'on va proposer on va pas vous le dire. Non, je crois que ce
bien.
Sera la surprise, ok?
Ça sera la surprise. Très bien joué. Et puis vous allez proposer un projet didactique. Ça sera dimanche prochain, le 25 novembre, toujours au Star. Ça sera tout un après-midi écologique avec des animations et notamment pour les enfants.
En fait, c'est pour mettre en avant la mission de la transition énergétique. On les a invités à venir ici. Pour que les gens peuvent venir et apprendre comment mesurer leur empreinte carbone et comment s'engager à le réduire. Et on aura plein d'activités, dont un bateau solaire et électrique. On pourra faire des balades, il y aura Mobi, il y aura Monico voiture, il y aura la donnerie, il y aura plein de différentes activités pour les enfants et dans tous les étages.
Vous avez bien fait de préciser qu'effectivement, Mobi sera présent à cette journée.
Voilà.
Anne Jäger-Sédou, le troisième grand axe de la transition énergétique à Monaco sont les économies d'énergie dans le bâtiment. Est-ce que les promoteurs et les entrepreneurs jouent le jeu ou bien ils vont encore au plus court, c'est-à-dire à ce qui coûte le moins ?
Ce qui coûte le moins au final, c'est de réduire aussi ses consommations énergétiques. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Je crois qu'il y a une réelle envie et appétence des acteurs de la construction et de la rénovation des bâtiments. J'en veux pour preuve qu'on les a réunis il y a quelques semaines pour lancer en principauté le label Bâtiment durable méditerranéen. Qui est en fait là aussi une démarche de volontaire, de progrès, qui permet aux concepteurs, réalisateurs d'un bâtiment, de la conception jusqu'à sa réalisation et sa durée de vie, de s'interroger sur l'ensemble des impacts du bâtiment, bien sûr comment les réduire d'un point de vue énergétique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue confort de vie, usage de l'eau, etc. Et donc cette démarche, que l'on propose a rencontré beaucoup de succès puisque tous les acteurs du bâtiment étaient largement présents et représentés. Donc, comme vous le disiez, le bâtiment représente quand même 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'on a fait beaucoup de pédagogie, d'information là-dessus. Les acteurs le savent. Ils sont prêts à faire autrement et ils sont aussi un peu obligés de le faire puisque nous avons mis en place une nouvelle réglementation thermique, énergétique, qui est paru cet été et qui, là aussi, donne des ambitions quand même très fortes pour l'efficacité énergétique de nos bâtiments, tant en construction qu'en rénovation. Et j'insiste sur le mot rénovation, puisque finalement, dans une densité urbaine aussi forte que la nôtre, c'est bien la rénovation de l'ensemble des bâtiments qui est l'enjeu et plus que la construction neuve.
Alors parlons quand même construction, parlons avenir assez lointain mais qui est déjà en marche. Il y a en ce moment un projet extrêmement important qui se crée à Monaco, c'est l'extension en mer. Est-ce que dans cette construction titanesque, la transition énergétique est prise en compte et de quelle façon ?
Il est évident que quand on se lance dans un projet aussi ambitieux et impactant sur son environnement que l'extension en mer, il faut en retour avoir des exigences environnementales très fortes, donc tant sur le chantier lui-même et la réalisation de ce chantier, que l'objectif d'éco-quartier au bout du compte. Et là, les ambitions sont fortes et vous pouvez compter sur la mission transition énergétique pour accompagner cette ambition. Il est évident que ce quartier devra être vraiment l'image du quartier du futur, durable et positif d'un point de vue énergétique. Donc on anticipe déjà là-dessus avec deux choses. La boucle thalassothermique dont je vous parlais, on est déjà en train d'organiser le pompage en mer pour pouvoir demain alimenter en énergie de la mer cette extension. Et en 2019, on va équiper le Grimaldi Forum de panneaux photovoltaïques finalement le Grimaldi Forum, ça va être notre plus belle réalisation à l'échelle de la principauté, puisque c'est un des plus grands toits, avant peut-être demain ou après-demain d'équiper, je l'espère, le Stade Louis II. Donc restons sur le Grimaldi Forum, 600 mégawatts annuels qui seront aussi pour alimenter l'extension en mer.
Est-ce que vous pensez que les Monégasques et les résidents, ceux qui viennent travailler à Monaco, sont motivés sur cette problématique de la transition énergétique ?
Oui, je pense qu'ils sont particulièrement motivés parce que plein d'incohérences, on en a relevé certaines sur les déchets, sur la mobilité, donc plein d'incohérences, je crois que nous tous, chacun, on peut s'interroger sur nos cohérences chaque jour, mais avec une réelle envie de faire mieux et différemment, parce qu'au final, on parle de quoi ? On parle de qualité de vie, de qualité de l'air, de santé, d'un meilleur environnement et tout simplement d'une planète vivable. Donc je pense que ça, tout le monde commence à le percevoir, à le comprendre. Voilà, je finirai peut-être sur ce mot de la santé. Tout ce qu'on entreprend pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, finalement, c'est aussi des actions qui vont permettre d'avoir un air moins pollué. Voilà, je pense que rien que cette motivation-là, pour nos aînés, pour nos plus jeunes, pour nos enfants, de les permettre de vivre dans un environnement plus sain, devrait largement nous motiver pour nous mettre davantage en action.
Eh bien voilà, cette émission se termine. Merci à tous de nous avoir expliqué les gestes tout à fait concrets que vous faites pour assurer une part de cette transition énergétique à Monaco. Merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Éthique. Bonsoir et à bientôt.
Soyons positifs.